Merci. Donc on va enchaîner avec avec un autre personnage incendiaire. Cette fois-ci, dans la fiction historique, je me suis rendu compte que les personnages pyromanes ne sont pas si rares dans la fiction historique québécoise contemporaine. On peut penser, par exemple, à Hermina Salmontès. C'est une directrice de cirque très charismatique dans Combustio de Gilles Jobidon, qui met le feu au chapiteau après une dernière représentation grandiose de son cirque. Et en même temps, elle se suicide, choisit donc de mourir avec son cirque. Et l'acte de destruction sonne ici la fin d'une ère de cirque, après avoir montré le potentiel d'un nouvel art de cirque, encore une fois, qui se développera donc quelques années après la mort d'Hermina. On peut penser à Amy Duchesnay, un personnage plus connu peut-être, la narratrice plus ou moins fiable du Ciel de Bay City de Catherine Mavrikakis, qui est la seule survivante du feu qu'elle affirme avoir mis à la maison familiale. Donc, c'est pas clair si c'est vraiment une pyromane. Une incendiaire. Le soir de la fête de ses 18 ans, et selon Anne-Martine Parent, le geste incendiaire de cette fille de survivante du Holocauste, qui est hantée par la post-mémoire, voire la culpabilité de celles et ceux qui viennent après, répète la mort de ses grands-parents et confirme en même temps son statut de survivante de la Shoah, dont elle porte la mémoire dans son corps, littéralement. La répétition est aussi au cœur du projet du personnage pyromane dans le premier roman d'André Lamontagne, Les Fossoyeurs, donc dans la mémoire de Québec, paru en 2010. Et ici, la destruction se fait de façon purement symbolique et dans le cadre d'un projet de commémoration, comme le titre de ma communication l'indique. Au lieu de confirmer le statut envahissant, omniprésent du passé par la répétition de la destruction, les actes incendiaires du personnage pyromane de la montagne ressemblent plutôt à la tentative de faire revivre un passé destructeur oublié, et ce, afin de fuir le présent. Ce projet commémoratif par le feu est juste une de deux tentatives de restituer le passé de la ville de Québec mise en parallèle dans le roman de la montagne. En effet, le double récit des Fossoyeurs suit en chapitres alternants les histoires de deux personnages qui sont également fascinés par plusieurs aspects oubliés ou enfouis du passé de la ville de Québec. D'une part, le protagoniste ou premier protagoniste et premier narrateur, un journaliste de Vancouver, son nom, profite d'un séjour d'une semaine dans sa ville natale, donc Québec, aux alentours de Noël 2007 pour effectuer une recherche historique à la demande de sa voisine qui s'appelle Rachel et qui est d'origine chinoise. Celle-ci voudrait mieux connaître la vie de ses grands-parents qui s'étaient établis à Québec au début du 20e siècle. Et parallèlement, la deuxième trame narrative du roman est celle qui m'intéresse le plus ici, met en scène un jeune chômeur à Québec, donc le futur incendiaire. Ce personnage, également son nom, est présenté par un narrateur à la troisième personne, donc hétérodiégétique, et captivé par les incendies qui ont ravagé Québec au 19e siècle. Indigné par l'oubli de cet aspect du passé de Québec, dont il voit plus de traces, à Québec, en fait au présent, il passe lui-même à l'acte en mettant le feu à plusieurs endroits dans le but d'attirer l'attention de ses contemporains sur cet élément important de l'histoire de la capitale québécoise. Et les actes destructifs symboliques du pyromane et leur mise en contraste avec une enquête historique classique soulèvent pour moi des questions sur la politique mémorielle officielle et sur la place du passé dans le présent contemporain. Ici je cite François Hartog, bien sûr, le présent massif, envahissant, omniprésent, mais aussi inquiet, en quête de racines et d'identité, soucieux de mémoire et de généalogie, dans lequel semble s'inscrire le texte du Rabat, récit de filiation et d'appartenance, où tel un archéologue, André Lamontagne exhume des drames historiques à la recherche de racines et de pistes identitaires. Donc, mon plan, afin de dégager ces réflexions sur le temps, je vais progresser en trois temps aussi. Donc, après une brève présentation de l'enquête du journaliste, j'analyserai le personnage et la démarche de cet artisan du désastre, et le tout en portant une attention particulière au dispositif narratif du roman. Et sur cette base, il sera, je l'espère, possible de dégager les rapports au passé divergents qui sous-tendent les deux démarches. Donc, je commence par le journaliste. La première des deux tentatives de reconstruire un aspect de la ville de Québec, donc celle du journaliste sur la communauté chinoise, s'apparente à une, je cite Dominique Viard, enquête sur l'ascendance du sujet, donc typique d'un récit de filiation selon Viard, même si ce n'est pas la principale concernée, donc Rachel, qui part à la recherche de son passé, mais son voisin, le journaliste. En effet, les recherches du journaliste visent à combler les lacunes du récit de famille de Rachel, qui est victime de ce que Dominique Viard appelle un père taiseux, donc encore un père taiseux. Et Rachel ne connaît donc que des bribes d'une, je cite, « histoire officielle de sa famille ». Munie de quelques documents qui représentent les seules traces de la vie de la famille de Rachel à Québec, le journaliste parcourt alors la ville, ses cimetières, ses archives, en une enquête qui s'inscrit vraiment dans un paradigme indiciaire tel que défini par Ginsburg. Et celle-ci finira par révéler un crime. En effet, le journaliste apprend que le grand-père de Rachel était impliqué dans un trafic d'ossements, mais par respect pour Rachel, il renonce à rendre publique cette affaire sordide et oubliée, donc à faire entrer le passé dans le présent. De plus, le récit omet l'épisode de la communication des résultats de la recherche. Du coup, le lecteur n'apprend même pas comment et si Rachel concilie les connaissances acquises sur la vie de son père et de son grand-père avec ses souvenirs personnels. Bref, la disjonction entre présent et passé semble persister. À la différence de l'enquête du journaliste, qui lui considère sa recherche comme une pure formalité, celle du protagoniste de la deuxième trame narrative relève plutôt de l'obsession. Il s'agit donc d'un jeune homme qui est né à Québec et a récemment perdu son travail. Solitaire et célibataire, timide et taciturne, et on pourrait ajouter pas attachant du tout, il vivote au jour le jour en fréquentant un cercle d'amis, mais n'éprouve pas de sentiment d'appartenance particulier à un groupe ou encore moins à sa famille. C'est vraiment solitaire. En effet, il, je cite, « se plaisait à penser qu'il avait une identité passe-muraille et, encore une citation, n'aimait pas attirer de l'attention ». En guise de caractérisation, le narrateur mentionne que, je cite, « indifférence, c'est le mot qu'avait choisi un conseiller pédagogique pour expliquer ses résultats scolaires médiocres et son comportement vaguement asocial ». Donc là, il y a peut-être un petit clin d'œil à Meursault. Mais le personnage ne se montre pas du tout indifférent, plutôt nostalgique face à la modernisation de la ville de Québec, regrettant par exemple, je cite, les endroits glauques, ici il est question des endroits glauques de la rue Cartier d'autrefois. Un désir de reconnaissance sociale se détecte de plus lors d'une scène de visite de cimetière. En fait, il a invité ses amis à faire un tour guidé du cimetière St. Matthews et se montre dépité quand un participant lui vole la vedette en expliquant une inscription sur laquelle lui, donc le jeune chômeur, avait quand même fait quelques recherches. Tiraillé donc entre une quête de reconnaissance et l'impulsion de ce que Dominique Rabaté appelle une, je cite, « stratégie de soustraction, de retrait ou d'effacement », il me semble être un personnage très contemporain, plus observateur qu'acteur à part entière d'une réalité qui le désenchante profondément. Et c'est sa tendance pyromane qui le pousse à entrer en action. Donc, il va au Musée national des beaux-arts de Québec et est comme sidéré devant la série de tableaux « Drames à Québec ». Une série de tableaux qui le frappe de stupeur et le trouble profondément. Il s'agit de toiles que vous ne pouvez pas voir, mais qui mettent en scène les incendies dans les faubourgs Saint-Jean et Saint-Roch en 1845. Et dans chaque cas, les citoyens sont les témoins impuissants du, je cite, « spectacle de destruction ». Et fasciné, le jeune homme entreprend donc des recherches sur les incendies, et particulièrement sur ceux survenus en 1845, parce qu'il les soupçonne d'être de nature criminelle. Mais au lieu d'essayer de valider son hypothèse d'incendie criminel, il glane plutôt des informations tel un collectionneur compulsif. Et ce faisant, il fait très attention à ne pas laisser de traces informatiques. En effet, soucieux de ne pas laisser de traces, il n'utilise que des ordinateurs publics qui ne demandent pas d'identification de l'utilisateur. Donc, il fait vraiment profil bas. En nourrissant son obsession, il se rend compte du rôle qu'a joué le feu dans l'histoire de la ville de Québec et tire la conclusion que, je cite, « le feu est facteur de progrès. Les incendies favorisent souvent le développement urbain, l'agrandissement des rues, la renaissance de certains quartiers. Au-delà du symbolisme éculé du phénix, il fallait oublier les cendres et reconnaître aux flammes leur part dynamique. » Le narrateur hétérodiégétique de cette trame narrative semble implicitement critiquer le caractère quand même réducteur et inhumain de cette interprétation du feu lorsqu'il précise au sujet de l'incendie de l'orphelinat Saint-Charles en 1927 sur lequel se documente le personnage que, je cite, « le drame avait été transposé dans un roman d'Anne Hébert qu'il, donc le personnage, n'avait pas lu. Le fait que le personnage ignore le premier jardin et n'ait aucune intention de le lire semble ici souligner en creux son désintérêt pour la dimension tragique de l'incendie qui illustre entre autres ce roman d'Anne Hébert. » C'est donc pour faire hommage au pouvoir progressiste du feu et pour attirer l'attention sur des incendies historiques oubliés qu'il passe à l'acte. Au lieu de chercher des informations en vue d'établir un récit de l'histoire, comme le journaliste, il veut plutôt la faire revivre en répétant les incendies historiques. Ce faisant, il fait tout de même attention à ne causer que des dommages matériels, repérant par exemple les heures d'ouverture d'un théâtre situé près du lieu d'origine de l'incendie des faubourgs Saint-Roch et Saint-Sauveur survenu en 1866 avant d'y mettre le feu. Le but n'est donc pas de répéter des tragédies, mais d'attirer l'attention sur des événements et sur un acteur oublié de l'histoire de Québec. Il dit en effet proposer, je cite, simplement une reconstitution symbolique de cette catastrophe de 1866. Et ce, en souhaitant ardemment, je cite de nouveau, qu'un journaliste, un historien amateur ou un blogueur établisse un lien avec l'incendie de 1866. Ce vœu ne s'exauce toutefois pas et le narrateur mentionne que le personnage, je cite, désespéré à l'idée que personne ne saisisse le sens de son geste. C'est en arrivant au port de Québec après son tour guidé du cimetière, qui s'est avéré décevant pour lui, qu'il met le feu pour la troisième fois, cette fois-ci sans préméditation ni repérage. Le discours indirect libre traduit la fascination qu'exerce l'image du feu historique au port. Je cite « Trois jours, quel spectacle cela devait être !» Son impulsion pyromane s'avère donc de plus en plus irrépressible car il fait fi du risque d'être reconnu dans une caméra de surveillance d'une station-service lorsqu'il achète l'essence dont il a besoin pour faire flamber les embarcations. À la suite, il réussit à se réfugier dans un tunnel souterrain squatté par un groupe d'attentistes. Un ami lui avait appris l'existence de ce souterrain en dessous de la ville aussi immense que méconnu qu'il avait d'emblée fasciné. Et une quatrième tentative de reproduire un feu historique oublié, celui de l'ancienne synagogue Beth Israël dans les années 40, est empêchée parce que le protagoniste de la première trame narrative, donc le journaliste, l'interpelle sur les lieux. En fait, les deux trames narratives se croisent brièvement à cause de l'intérêt que portent les deux personnages, indépendamment l'un de l'autre, pour ce mystérieux souterrain squatté. Ainsi, lorsque le jeune homme sort de cet endroit, le journaliste, en quête d'information, l'interpelle et le suit jusque sur les lieux de l'ancienne synagogue. Il aborde encore une fois, interrompant ainsi à son insu le projet incendiaire. Et le dernier incendie, celui du manège militaire, survient 4 mois plus tard, donc en avril 2008, et il est rapporté par le premier de 2 épilogues. Dans cette description du désastre, le narrateur soulève la présence d'une foule de témoins impuissants, établit explicitement le parallèle aux œuvres de Joseph Légaré. Je cite « Tout le ciel était enflammé comme dans un tableau de Légaré. La capitale était toujours ancrée dans le 19e siècle. » Le pyromane, quant à lui, semble avoir trouvé la mort dans l'incendie qui a fait une victime non identifiée. C'est du moins ce que croit le journaliste qui, de retour à Vancouver, prend connaissance de la destruction du manège militaire par le feu et fait le lien avec les incendies criminels survenus en décembre. Je le cite, « Même si le mystère planait dans les médias, il y avait peu de doutes dans mon esprit quant à l'identité de l'incendiaire. Il devait s'agir de cet individu que j'avais pris en filature à la sortie du souterrain. » Donc, contrairement au narrateur omniscient du premier épilogue, le journaliste, donc le deuxième narrateur, ne décrypte toutefois pas le message du pyromane. En effet, son interprétation va dans un autre sens, dans celui d'une, je cite, « métaphore secrète et historique ». J'avais probablement empêché l'incendie d'une synagogue et permis malgré moi la destruction d'un haut lieu de la mémoire coloniale. Ainsi, le journaliste voit un symbole de tolérance, mais aussi de l'oubli des racines du Québec, là où le jeune pyromane voulait faire référence à la force progressiste du feu. En renonçant à élucider le motif du jeune pyromane, il sonne donc l'échec du projet d'une commémoration par le feu. Donc, chacun de son côté, les deux personnages creusent les strates enfouies du... les strates du passé de Québec enfouies, mais finissent par les enfouir de nouveau. Donc, les connaissances dégagées ne sont pas rendues publiques. Ils agissent donc comme des fossoyeurs, et de là aussi le titre du roman. Dans le cas du journaliste, cette disjonction du passé et du présent est voulue, tandis qu'elle constituait plutôt un risque que le pyromane était prêt à courir en effectuant son entreprise incendiaire. En choisissant de réaliser son projet en dehors de tout cadre institutionnel et dépourvu de toute mise en contexte, voire de toute explication, il voulait proposer une forme alternative émotionnelle de la commémoration digne de la, je cite, « ville tragique » de Québec. En effet, arpentant la ville, le pyromane fait preuve d'une attitude nettement critique à l'égard du paysage mémoriel officiel. D'abord, il décrit l'abondance de plaques commémoratives à Québec en se demandant, je cite, « faire devoir de mémoire, mais à quelle fin ?» Lui, qui préférait nettement la ville tragique à la ville musée, semble dénoncer non seulement le choix des aspects du passé commémoré, mais surtout la vacuité de ce que Paul Ricoeur appelle la, je cite, « frénésie de commémoration ». D'un côté, sa critique vise donc la sélectivité de la mémoire officielle. Ainsi, le narrateur de sa trame narrative décrit l'agacement résigné du jeune homme face à la pratique de renommer les rues après la fin du régime français. Je le cite, « L'histoire et la toponymie étaient toujours du côté des vainqueurs, il le savait bien. » Mais de l'autre, il critique aussi la forme de cette commémoration, car dans ses yeux, les éléments du paysage officiel mémoriel transforment Québec en une, je cite, « ville-musée », qui ne fait que référence au passé sans donc éveiller de l'émotion. C'est pourquoi il préfère de loin la mise en scène des incendies de Légaré à celle plus sobre de John Murray que vous pouvez malheureusement pas voir ici. Il propose, il s'agit d'une, en fait la citation le décrit, elle est beaucoup plus sobre et analytique parce qu'elle veut souligner la vocation industrielle de Québec au lieu de mettre l'accent sur le drame. Les couleurs sont aussi plus grises que chez Légaré. Il propose donc un rapport au passé que l'on pourrait qualifier de mémoire ressentie afin de faire entrer le passé dans le présent du Québec, et ce par la répétition de la destruction. Sa tendance pyromane et le fait que son impulsion devienne de plus en plus forte au cours de son histoire mettent toutefois en doute le fondement rationnel de son projet. Ne s'agit-il pas plutôt d'un assouvissement de sa pulsion auquel il donne l'allure d'un projet de commémoration? On peut se le demander. D'autant plus que ce projet n'est pas dépourvu de contradictions, car sa nostalgie des endroits glauques ne se concilie que difficilement avec son admiration pour l'œuvre progressiste du feu qui a quand même contribué à la modernisation de Québec et du coup à la disparition de ces endroits glauques. Transmis par un narrateur omniscient qui détourne toutefois son attention de son personnage à la fin de son récit, le roman laisse planer le doute sur la motivation du personnage et refuse d'élucider les circonstances de sa mort. Pour parler avec Dominique Rabatier encore une fois, on peut se demander s'il a cédé au vertige de la disparition définitive, c'est-à-dire ne pas résister au désir de mort qui le nourrit. Dans tous les cas, en recréant le passé tragique de la ville, le jeune homme désenchanté semble exprimer un sentiment d'appartenance à Québec grâce à des actes destructeurs qui ont donc une double signification, indice ou plutôt icône, pour parler avec Peirce, de la destruction passée et acte d'appropriation très personnelle de la ville et de son passé. Pour conclure, le personnage pyromane dans Les Fossoyeurs s'apparente donc moins à un véritable artisan du désastre qu'à un artisan de la mise en scène de désastres passés, peut-être. De fait, son geste incendiaire ne vise pas à détruire le bien visé, mais plutôt à souligner l'histoire violente du lieu que l'histoire officielle n'a pas transmise. Sa célébration de lieu de mémoire afin de créer ce que j'ai appelé une mémoire ressentie s'apparente donc à une tentative de recréer ce lien émotif et identitaire au passé qui caractérisait la mémoire, selon Pierre Nora. C'est intéressant de voir que la première trame narrative du roman, donc celle du journaliste, qui effectue vraiment une opération historiographique, pour parler avec Ricoeur, même s'il renonce à la dernière phase, parce qu'il n'écrit pas de récit d'histoire, elle s'inscrit plutôt dans un rapport au passé de l'historien, confirmant le diagnostic de Paul Ricoeur qui voit, je cite, « trop de mémoire ici, trop d'oubli ailleurs, dans notre présent, Le projet du pyromane veut de plus créer une mémoire alternative de Québec car il s'efforce à mettre en avant un acteur du passé oublié. Ce projet s'inscrit donc au moins partiellement dans un rapport au passé présentiste pour moi, pour reprendre aussi l'expression proposée par Hartog. Il se détecte en effet un sentiment de dette envers le feu en tant qu'acteur du passé qui a façonné la ville et auquel il veut rendre hommage par ses actes. Par là, son projet ressemble à l'accomplissement d'un devoir de mémoire visant à créer un lien entre passé et présent. Et sa mort dans les flammes, qui répète la mort de centaines, voire de milliers de Québécois du passé, met en évidence la part de souffrance individuelle de cet héritage tragique de la ville, dont le personnage finit par faire la très dure expérience. Le rôle du journaliste, et avec lui le rôle du lecteur, qui constate cette mort violente, s'apparente dès lors à celui des spectateurs qui, je cite, « assistaient impuissants à la disparition du manège militaire de Québec », qui correspondent, eux, à leur tour, aux, je cite de nouveau, « témoins impuissants du drame dans la toile de Joseph Légaré », que vous n'avez pas vu, mais qui représente l'incendie du faubourg Saint-Jean-Baptiste en 1845. Et selon François Paré, je cite, « leur présence, donc des spectateurs, est pourtant indice de la durée au-delà de toute destruction. En revivant douloureusement l'histoire de Québec, le pyromane a ainsi mis en scène la résilience d'une ville en perpétuelle transition. Ainsi, pour citer encore une fois Dominique Rabaté, sa disparition se transforme en signal. Merci.